Bonjour Geekzone et bienvenue dans Torréfaction, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec une sélection de news de Geekzone que je co-présente avec Caféine. Bonjour Caféine.
Salut Fasque, comment vas-tu?
Écoute, ça va? Pas trop de clients chiants depuis la semaine dernière?
Non, enfin, on verra s'il en reste beaucoup ce week-end, parce que au rythme où je les blaste, ça se passe bien. Voilà, on en parlera plus tard.
C'est ça. Donc on se retrouve, comme je le disais, pour une petite sélection d'une demi-heure de news, de choses qu'on a voulu mettre en avant chacun de notre côté, et on va commencer tout de suite avec toi, puisqu'on va parler gaming et Quake Champions.
Oui, alors Quake Champions, c'est le free-to-play qui nous renvoie à nos jeunes années de Quake.
Ouais.
Une version soi-disant aussi violente que nos bons vieux fights sur Quake 3 Arena, qui arrive en bêta test technique et qui donc ouvre les vannes pour donner des clés un peu à tout le monde à partir d'aujourd'hui en fait. Donc vous pouvez ouvrir votre petit navigateur et aller choper ça. Le but du jeu, c'est de tester leur serveur, donc à mon avis ils vont être un petit peu surchargés, et comme d'habitude ils vont avoir sous-évalué le problème, mais on n'a pas à l'abri d'une bonne surprise. Et en tout cas, ça vous donnera aussi l'occasion de voir ce que vaut le jeu, parce que pour l'instant je vous avouerai que moi j'y ai pas beaucoup joué, mais les retours sont plutôt positifs mais méfiants, parce qu'on parle donc d'un free to play, et qui dit free to play dit pay to win, tout ça, donc on sait jamais un peu où le curseur se situe avant d'avoir vraiment étudié le jeu, quoi.
Alors moi je vous parlais d'un truc dont je parle jamais, c'est le early access.
Hein.
Je sais, c'est mal, il faut pas. Mais là, j'ai craqué pour la bonne cause, parce qu'en fait, je suis tombé un peu amoureux de ce jeu. Ça s'appelle Grip. Alors, je sais pas si tu te souviens d'un jeu qui s'appelait Roll Cage, fin des années 90, début des années 2000. C'était un jeu qui était édité par Psygnosis.
Ouais.
Alors, c'était un jeu de course de bagnole, un peu futuriste, un peu à la Wipeout, sauf qu'on avait vraiment un déplacement à 360 degrés, donc on pouvait monter sur les plafonds, rouler sur les plafonds, faire des espèces de petites cascades, et on pouvait aussi blaster des armes pour essayer de faire sauter les bagnoles adverses. Ils ont fait une espèce de remake, ce qui ne dit pas vraiment son nom, qui est développé en fait par une partie en fait de l'ancienne équipe des développeurs du jeu original, qui sont reformés sous le nom de Cage Element, et ils ont décidé donc de rendre hommage un peu au jeu original avec ce titre. Alors c'est un titre qui vient de passer là il y a quelques jours en version 1.2.1 et qui rajoute un support du LAN, donc on peut jouer enfin en LAN au bureau sur le temps de midi, voire plus si jamais on n'a pas envie de bosser. C'est un titre qui permet de faire aussi du single player, du split screen pour ceux qui jouent dans leur canapé, et on peut aussi jouer en ligne. Alors ça reste un early access pour le moment, le moteur est très très propre, la prise en main est vraiment cool, il y a encore quelques petites lacunes, notamment au niveau de l'interface. C'est un peu débile, on peut pas contrôler les éléments du menu avec le pad, on est obligé de passer par un clavier souris alors que tout le reste du jeu se joue au pad. Alors ils ont promis que ça allait être bientôt implémenté, c'était pas encore le cas quand j'ai vérifié, c'est quand même un peu dommage pour ceux qui veulent justement jouer dans leur canapé.
Ouais, mais bon, moi tu sais, je survis avec PUBG, donc niveau early access, ça se pose là, quoi.
Voilà, donc Grip, c'est sur Steam, il est à 16 balles, si je dis pas de conneries, en early access, et franchement, il est tout à fait jouable. Il y a déjà 6 véhicules, 6 modes de jeu différents, 8 pistes, des arènes, et il y a aussi du carcours, donc c'est des trucs pour faire des espèces de parcours avec des bagnoles, donc c'est assez rigolo. Si ça vous intéresse, on filera le lien sur la page Geekzone, comme à chaque fois, et puis on va repasser chez toi avec Vanquish. Tu parlais justement la semaine dernière qu'il fallait encourager les développeurs à faire des portages, ben voilà, on veut t'exaucer.
Ouais, 7 ans ça aura pris, hein, pour avoir la version PC. Donc Vanquish, c'est un jeu qui est sorti en 2010, c'est un truc de notre ami Mikami, qui est un shoot comme on en voit rarement sur PC, donc à la troisième personne. C'est un TPS assez violent dans son action, pas parce qu'il y a plein d'hémoglobine, mais parce que c'est vraiment 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 blindé d'action, et que t'as quand même un perso qui se précipite et qui fait des glissades sur les genoux pour aller shooter les mecs pendant 2 bornes. Donc voilà, c'est un peu différent, hein. On n'est pas dans l'ambiance PUBG où tu restes assis derrière ta caisse pendant 5 minutes. Là, ça va permettre de se détendre entre deux parties. La bonne nouvelle, c'est que Sega a fait ça très très bien, donc j'ai fait une petite news sur Geekzone cette semaine pour l'annoncer, et que le portage a l'air vraiment léché, ça sort le 25 mai. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez craqué et acheté Bayonetta, comme je vous l'ai chaudement recommandé la semaine dernière, vous avez une réduction de 25% pour acheter celui-là. Ça met le jeu à 15 balles, à peu près. Normalement, si vous achetez Bayonetta et celui-là en même temps, ça coûte 30 euros. Pour deux jeux de qualité, je dis que c'est pas du vol.
Non, c'est bien.
Voilà. Et la version PC, évidemment, gère le 4K, l'anti-aliasing de ouf, blablabla. Ils ont tout rajouté, du 60 FPS. Le but du jeu, c'est de pas se mettre les joueurs PC à dos en 2017, évidemment. Et si Sega continue sur cette lancée, bah ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que dans leur catalogue, sur les 10 dernières années, il y a quand même quelques perles, donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle.
Ok, et puis on va passer aux apps avec Workflow.
Oui, alors Workflow, c'est un truc dont j'ai parlé vite fait dans ma rubrique sur les remplaçants de Wunderlist, donc ouais. J'avais fait un dossier... pour tous les gestionnaires de tâches qui étaient un petit peu sympas actuellement pour remplacer Wunderlist, qui va se faire flinguer par Microsoft, qui le transforme en un nouveau logiciel, mais ça va pas se faire sans mal. Donc ce petit Workflow, ça fait partie des softs qui ont été rachetés par un gros récemment. Workflow, c'est une app iOS qui s'installe sur iPad et iPhone et qui permet d'automatiser plein de choses, mais surtout de faire des actions qui sont normalement entre guillemets impossibles sur iOS, avec des trucs, ça peut être super ponctuel, je sais pas moi, sauvegarder le grand format d'une image Instagram par exemple. Bon bah ça c'est impossible normalement sur iOS. Là vous pouvez le faire, vous chopez l'URL dans l'application Instagram, vous lancez Workflow, hop, vous pouvez récupérer la photo directement. Et il y a un milliard de trucs qui sont possibles comme ça, et ça a été racheté par Apple, donc il y a pas très très longtemps.
D'accord.
La problématique, c'est qu'évidemment dans la foulée, tout le monde a commencé à paniquer en se disant ah là là, ils vont tuer l'application, ça, il y aura plus d'update et tout. Et de fait, Apple a dit bon bah là, on va pas rajouter de fonctions, bisous, merci pour tout quoi. Donc tous les gens qui ont racheté et qui adorent l'application et qui ont vraiment fait des méthodes de boulot, bah des workflows pour le coup, autour de ça, c'était un petit peu dégoûté, moi le premier. La bonne nouvelle, c'est que c'était apparemment, il y avait deux trucs qui avaient sauté dans la dernière mise à jour, mais qui étaient apparemment liés à des problèmes de droit suite au rachat, et qui se couvraient en fait tout bêtement.
D'accord.
Et qui sont revenus maintenant. En gros, la nouvelle mise à jour de cette semaine a rajouté. On a retrouvé les intégrations avec Google Chrome iOS, Pocket. Il y a beaucoup plus d'extensions maintenant possibles avec Apple Music, par exemple, ce qui n'était pas possible avant. Et voilà. Donc, si ça continue dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Après, on pense que l'appli va disparaître à terme et sera intégrée. En tout cas, c'est ce qu'on espère, à iOS 11, donc la prochaine version, ce qui donnerait accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont pour l'instant absentes d'iOS, parce qu'évidemment, comme Apple reste sur ses positions, qu'il n'y a pas de permettre de gestion de fichiers dans cet OS, c'est un petit peu problématique pour plein de trucs, et on arrive à contourner tout ça grâce à Workflow. Voilà.
D'accord.
Après, la bonne nouvelle, c'est que le rachat par Apple a fait que l'application est gratuite. Donc vous pouvez aller la télécharger maintenant sans restriction et tester tout ça. Il y a plein de gens qui n'en ont absolument pas l'utilité, hein, c'est vraiment un truc d'utilisateur avancé, mais ça permet vraiment de rajouter énormément de choses. Moi, pour vous donner des exemples tout bêtes, pour alimenter certains blocs quand je suis en train de mater une vidéo sur YouTube par exemple, je peux extraire directement l'URL, et en fait en appuyant sur un bouton, ça va me générer l'URL correcte avec le titre, le lien en Markdown qui va me permettre d'insérer tout ça dans un WordPress en une action, en fait.
Un bon outil de feignasse, quoi.
Un bon outil d'optimisation. C'est très différent. Tu sais, la feignantise, tu sais comment ça marche.
C'est un truc de quoi tu parles.
C'est un truc de mec intelligent, en fait.
C'est ça, exactement. C'est ce qu'on se dit pour se rassurer.
Exactement.
On va rester sur les apps. Je voulais faire un petit récap rapide de trois apps que moi j'utilise pour le coup dans mon workflow. Tu ripes encore des CD, toi, ou pas?
Écoute, j'en ai, je sais pas, 200 qui sont en attente depuis 1000 ans et que j'ai toujours pas fait. Donc, comme tu peux le voir, je suis à fond sur l'histoire.
Bon, bah, tu vas pouvoir le faire avec les trois softs que je te propose là, mais il va falloir le faire sous Windows, malheureusement.
C'est pas grave, c'est mon seul lecteur CD survivant est dans mon PC.
Ah bah voilà, parfait. Trois utiles que je voulais rapidement citer. Donc il y a EAC, c'est Exact Audio Copy, c'est un soft allemand qui existe depuis 98. En gros, c'est juste la Rolls du soft de rip de CD. C'est le plus fiable, c'est le plus efficace. Il fonctionne avec un système AccuRip qui permet de comparer vos rips à ceux d'autres utilisateurs pour vérifier que vous n'avez pas eu de soucis, que vous avez bien une image qui correspond à l'original. Il est gratuit, donc bah voilà, je peux pas difficilement en rajouter. C'est le soft si vous voulez ripper vos CD, donc si vous achetez encore des CD comme c'est mon cas, ou si vous en avez encore plein que vous voudriez passer à la moulinette du numérique, bah vous pouvez le faire avec EAC. Ensuite, pour les encoder, moi je recommande de passer par un deuxième soft qui s'appelle DB Power Amp. C'est un soft dont j'ai déjà parlé sur Geekzone l'année dernière. C'est un soft qui s'intègre très très bien avec l'explorateur Windows et qui est ouvert vers tous les formats du monde grâce à un système de plugin. Donc si vous avez besoin besoin par exemple de je sais pas convertir la piste audio d'une vidéo en M4A ou en M4 je sais pas quoi vers du MP3, du WAV, du FLAC ou même du EP, ce que vous voulez comme format, tout existe, tout est disponible. C'est un soft qui lui pour le coup est payant, c'est 36€, mais vous avez une licence à vie qui vous donne droit donc à des mises à jour non-stop. Donc ça c'est la deuxième le deuxième maillon de la chaîne. Et puis je voulais terminer par MP3 Tag dont j'ai parlé il y a quelques jours sur Geekzone, qui est un soft qui permet donc de mettre un peu d'ordre dans vos MP3, justement de les taguer. Et Dieu sait que CAF m'a longtemps fait la morale parce que je ne taguais pas mes MP3.
C'est un sacré bordel.
Moi j'écoutais mes morceaux via un classement par dossier à l'ancienne et je les lançais à la main. Et puis j'ai découvert la magie des bibliothèques multimédia. MP3 Tag c'est juste pour moi le meilleur soft sur Windows. Il permet de faire un paquet de trucs. Je vous invite à aller lire le papier que j'ai fait pour avoir tous les détails. Mais en gros c'est vraiment le soft ultime pour taguer proprement tous vos MP3, aller récupérer les pochettes, organiser tout ça dans vos folders audio. Et là il est gratuit aussi, on peut le soutenir via un système de donation, mais si vous voulez l'utiliser il est fully functional comme on dit, même en version à 0 balles. On va passer du côté de la culture, deux petites annonces rapides de mon côté avec Dr Who, puisqu'on a une série radio qui a été mise en ligne il n'y a pas longtemps sur Spotify, j'en ai parlé aussi sur Geekzone cette semaine. C'est une série radio qui a été faite au début des années 2000 par une société qui s'appelait Big Finish, qui avait pris un peu le relais. Oui, je sais, le nom de la société est un peu... voilà.
Non, j'ai rien dit. J'ai rien
on va penser que ça produit autre chose que des drames radiophoniques. La série originelle Doctor Who avait été annulée en 86, et puis après, il y a eu une longue période de flottement avant que ça soit rebooté d'une certaine manière plus tard. Et entre les deux, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites avec la licence, et notamment donc des dramas audio, des dramas radiophoniques. Il y a 30 heures d'épisodes qui sont disponibles sur Spotify. On retrouve notamment des acteurs de la série originale, donc pour les fans, c'est plutôt cool. Et c'est en écoute gratuite, pour peu que vous ayez un abonnement Spotify ou vous ayez au moins le client installé. Ce sera probablement, du coup, entrecoupé de pubs, mais ça, c'est bien fait pour votre gueule. Et puis, sinon, du côté musique encore, je voulais reparler du label Touch, parce qu'il y a une sortie toute récente là sur le label, une sortie d'un groupe que moi j'aime beaucoup qui s'appelle B12. Alors toi ça te dit peut-être rien, Kaf, mais c'est
que dalle. Voilà, moi, je connais les B52. Merci.
Alors pour le coup rien à voir. B12 c'était un duo britannique qui était assez proéminent dans les années 90. Hein, c'est
j'allais dire cheap.
Non.
pardon. Désolé.
C'est un groupe qui avait signé sur le mythique label Warp Records, hein, qui est un des labels fondateurs de la scène électro en Angleterre, qui avait disparu un peu des radars fin des années 2000, et puis qui l'a refait surface sur Bandcamp. Ils ont sorti un EP 4 titres là il y a pas très longtemps sur le label Touched, et je voulais justement vous reparler du label Touched pour vous rappeler que c'est un label en ligne donc qui propose des sorties propres, donc des albums, des EP, mais aussi des compilations assez monstrueuses de 200 titres en règle générale, des inédits qui viennent d'à peu près partout sur la scène électro internationale, et c'est en général pas cher, c'est 50 balles pour une collection de 200 tracks inédits. Et tous les bénéfices du label sont reversés à la Fondation Macmillan contre le cancer, donc c'est plutôt cool aussi. Allez faire un tour sur leur page Bandcamp, il y a pas mal de petites pépites à découvrir, et notamment donc ce nouvel EP de B12. On revient au matos CAF avec Nvidia.
Ouais, allez, attention, on va parler gros chiffres, hein. Ou en plus non, on va pas en parler parce que ça va saouler tout le monde en podcast. T'imagines 15 teraflops pour faire les tableaux en audio, c'est vraiment pas pratique, hein. On va pas le faire. Non, je voulais juste dire un mot sur Nvidia qui a dévoilé pendant sa conf technique annuelle le GV100, qui est pourquoi c'est intéressant, parce que c'est une nouvelle architecture, et qui dit nouvelle architecture dit peut-être à terme nouvelle carte graphique, on sait jamais. Le nom de la petite bestiole cette fois ça a changé, ça s'appelle le Volta, donc c'est son nouveau GPU. Mais pourquoi on dit peut-être carte graphique, parce que c'est un GPU, donc tout le monde dit c'est une carte graphique. Non, c'est un truc qui est dédié au serveur, et plus particulièrement au monde de l'intelligence artificielle, qui est très à la mode en ce moment et qui fait gagner beaucoup d'argent à Nvidia.
D'accord, tu vois, je ne savais pas que Nvidia se lançait dans l'intelligence artificielle.
Ah, ils ne sont pas lancés, ça fait très longtemps.
D'accord.
En fait. Ils utilisent en fait les capacités de leurs processeurs. Tu te rappelles de toute la du côté physics,
oui, c'est
etc.
Ce que j'allais dire,
voilà, donc c'est des processeurs en fait qui sont capables de speeder, mais d'avoir des puissances hallucinantes par rapport à un processeur x86 pour des tâches, on va dire répétitives. J'essaye de faire une formulation qui soit pas complètement fausse, mais c'est pas évident pour simplifier ça. Mm-hmm. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'avoir, comme à l'époque des DSP, presque à l'époque, je sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais c'est des processeurs qui sont capables de faire très peu de choses, mais très vite. Mm-hmm. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Et Nvidia se place en concurrent de Google directement, qui a inventé des pros qui s'appellent les TensorFlow, qui sont des pros qui servent uniquement justement à faire bosser ce qu'on appelle le machine learning et à accélérer tous ces trucs-là. Pour, je sais pas, à terme, avoir, je prends des exemples un peu bateaux, mais des moteurs de recherche qui sont capables de comprendre ce que vous avez demandé, alors que c'est du langage vraiment normal.
Ouais, donc, langage naturel.
Je sais pas, tu vois, voilà, trouve-moi toutes les photos sexy de Nathalie Portman, tu vois.
C'est Jarvis, quoi.
Et c'est Jarvis en version, malheureusement, pas aussi puissante, mais c'est le Graal de ces mecs-là. Et donc, pour ça, on a besoin de ce genre de processeur. La grosse nouvelle, c'est que c'est un pros de ouf, en fait. Hein. Il y a 21 milliards de transistors, enfin, plus de 21 milliards de transistors. C'est la puce la plus balèze jamais faite.
D'accord.
Donc, ils sont un petit peu vénères en ce moment. Et puis, bah, ils gagnent plein d'argent, puisque avec, entre ça qui cartonne, qui est un secteur d'activité en plus, tout ce qui est TensorRT qui est hallucinant pour eux en termes de serveurs et de recherche derrière. Il y a les gens de la bagnole, enfin tout ce qui est automobile, automatisé, entre guillemets, intelligente, qui est intéressé par ce genre de truc aussi.
Donc et le puis, autopilote de Tesla, par exemple.
Voilà, enfin pour pouvoir faire ce genre de véhicule, pour pouvoir faire ce genre d'application, t'as besoin de processeurs de ce type. Donc ils sont très bien positionnés après avoir galéré pendant des années. Et accessoirement, il y a la PME Nintendo qui a sorti la Switch, dont ils font le CPU, et donc du coup ça cartonne, Tegra, qu'ils ont jamais réussi à refourguer à personne, d'un coup ça devient un truc qui marche et qui rapporte du fric. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour eux. Mais si vous voulez, je vous mettrai les liens pour que vous en appreniez plus sur la nouvelle architecture, puisqu'il y a vraiment plein de trucs à dire, mais c'est absolument intraduisible en podcast, ça va être très saoulant très très vite. Mais le fin mot de l'histoire, c'est de voir à quel point ça évolue vite, et KMD et autres concurrents vont avoir du mal à garder le contact avec eux si ça continue à ce rythme.
Tiens, alors question de noob total en matos, tu crois que c'est un truc qu'on va voir débarquer dans nos PC à terme, ça, des cartes d'IA?
Non, je pense pas. Moi, je pense que ça sera intégré avec des pros, justement, des GPU, tout bêtement.
D'accord.
Mais je pense pas que ça devienne quelque chose. Tu vois, les cartes physiques sont jamais marché.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
La tendance est à l'intégration, pas à l'éclatement des fonctionnalités. Donc je pense qu'on aura des choses qui sont balèzes, mais qui feront tout dans un seul chip, puisqu'en plus c'est la tendance pour nos téléphones, etc. Donc je pense que c'est dans cette direction que ça va aller.
Et on parle de téléphone, l'enchaînement est tout trouvé avec la suite, puisqu'on va rester avec nos amis de Google qui lâchent Linux.
Ouais, alors attention, ils lâchent rien pour l'instant.
Ah.
Donc de quoi on parle? On parle de l'annonce cette semaine sur les différents sites de tech de Google Fuchsia, qui est un nouvel OS pour smartphone. Alors, qui n'est pas justement Android.
D'accord.
Qui est une évolution et un des milliards, je sais pas combien de milliards de projets en cours chez Google, avec certains qui sont des projets voués à une mort certaine, qui sont plus des expérimentations qu'autre chose. Apparemment, c'est pas le cas de Fuchsia, qui a une vraie réflexion sur, pour essayer de faire simple, à quoi ressemblerait Android s'ils le développaient maintenant avec tout ce qu'ils savent actuellement du marché.
D'accord.
Faut savoir qu'Android a été fait à l'arrache totale à la base. C'était un OS pour appareil photo, puis une copie de BlackBerry, puis finalement une copie d'iPhone, et à chaque fois ils sont un peu précipités, du coup c'est pour ça que Linux est au cœur de l'OS et que ça ne les arrange pas pour plein de raisons. D'ailleurs ils sont à la bourre totale sur les noyaux côté Linux, et ça a pas l'air de les stresser plus que ça, mais ça stresse certains développeurs. Donc bon, c'est clairement pas une direction qui les intéresse à terme, et ils ont envie de se barrer de tout ça. Et comme Google, c'est une boîte avec une certaine taille, avec quelques gens de talent, on se retrouve une petite PME. Ouais. On se retrouve avec un projet qui est assez hallucinant, parce que Fuchsia, donc c'est un nouvel OS pour smartphone, mais dedans en fait c'est que du 100% made in Google et que des trucs nouveaux.
D'accord.
Donc ils ont un nouveau kernel qui est entièrement développé par eux, qui va servir justement de fondation à ce nouvel OS. Un nouveau SDK pour bosser sur ce truc-là, qui est lui-même fait avec un langage qui est fait par Google. Et on arrive évidemment à un matériel, à une interface matériel design qui serait super rapide puisque allégée et qui va virer toutes les problématiques qu'ils ont actuellement avec des vieux morceaux historiques de l'OS qui les arrangent pas plus que ça. Quoi. Donc là, je vous balance pas tous les mots clés, mais en gros, on est sur un truc qui utilise Vulkan. On en a déjà parlé dans le jeu ouais. vidéo. C'est des nouvelles librairies graphiques qui vont super vite. Donc là, ils ont une nouvelle couche graphique qui s'appelle Escher, qui est basée sur Vulkan.
D'accord.
Pour avoir des trucs un peu sexy, genre les volumétriques soft shadow. Donc le but du jeu, en gros, c'est de faire en sorte que Material Design soit super joli, super rapide, et de s'affranchir de tous les vieux morceaux d'Android qui les saoulent depuis des années maintenant. Mmh. Et ils sont en train de bosser sur un truc qui est violent. Les applications vont être écrites en Dart, donc qui est leur nouveau langage, qui est un reboot de JavaScript. Mais complètement optimisé performance.
Et niveau interface, c'est un truc qui te convainc? Enfin, on a déjà vu des choses ou pas?
Ouais, il y a des trucs qui tournent, mais c'est très très jeune, donc il reste beaucoup 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 de travail. Pour l'instant, ça sert à rien de juger sur les screenshots, parce que même le j'ai envie de dire le concept même de l'interface peut encore évoluer. Mmh. Mais techniquement, les trucs qui sont derrière sont hyper intéressants. Et ça risque en plus d'être hyper intéressant pour les développeurs, puisque le SDK utilisé permet de faire des applications qui sont directement et compatibles avec Fuchsia et avec iOS. Donc il y a plein de trucs qui vont évoluer dans les années à venir, enfin même dans les mois à venir, parce que je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus vite possible là-dessus. Et pour ceux qui ont peur que ça soit encore un projet de Google qui meurt dans moins d'un an, un peu comme Google Space que j'ai vanné sur Twitter il y a pas très longtemps, c'est pas le cas a priori, puisque plusieurs développeurs de chez Google ont dit non, c'est un truc qu'on est à fond dessus, c'est un truc hyper sérieux. Donc voilà, on verra bien si c'est vrai ou pas. Et dans le même genre, évolution de design, mais beaucoup moins violente. Là, on parle juste de design, pas de refaire Windows. Il y a Microsoft qui vient d'annoncer que Neon, qui est le nom non officiel de leurs prochaines interfaces, va enfin s'appeler avec un vrai truc qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur plaquette marketing.
D'accord.
T'es prêt?
Ouais.
C'est le Microsoft Fluent Design System. Alors parce que là, attention, c'est important, parce que du coup, on parle pas juste d'interface, on parle d'animation, de concept, n'est-ce pas? Et alors, c'est pas aussi con, je vanne, mais c'est pas aussi con que ça, c'est que effectivement, maintenant, tu vas avoir besoin, avec les interfaces modernes, de faire appel à certaines animations qui vont te faire comprendre qu'il faut cliquer ici, ouvrir ça, etc., pour ta prochaine action avec ton interface graphique. Et du coup, ils veulent pas parler juste de design, mais vraiment de design système.
D'accord.
Donc après, derrière, ça ressemble furieusement à des trucs très très épurés, un peu dans le goût matériel design et compagnie. Et comme le faisait remarquer un commentaire qui m'a fait beaucoup rire sur un des sites que j'ai lu, les mecs disent bon, on a des écrans 4K avec des tonnes de couleurs, des trucs de ouf maintenant, et du coup on n'arrive plus à reconnaître un bouton d'un menu, d'un truc, tout est plat, tout est méga design, mais du coup c'est pas très pratique. Et pour l'utilisateur lambda, c'est vrai que quand on voit les problèmes qu'a eu même Apple avec Apple Music par exemple, interface un peu trop épurée au goût de certains, on va être en plein là-dedans avec ce nouveau truc Microsoft, qui est en fait une extension de Metro et qui est appelé à évoluer avec le prochain gros patch de Windows. Donc va falloir s'habituer, je crois.
Et alors, la grande question que je me pose, c'est est-ce que ça va enfin uniformiser le look des apps sous Windows?
Alors, ils essayent, c'est une excellente question. En fait, pourquoi c'était pas du tout uniformisé? C'est parce que ces imbéciles avaient pas du tout mis en place de guidelines précises.
Non, mais même chez eux, en plus, hein, quand tu lances un office, c'est pas du tout intégré dans l'UI.
Parce que c'était pas prêt, en fait. Ouais. Enfin, c'était absolument pas pensé pour les grosses apps, donc uniquement les petites apps avaient été utilisées avec ça, mais personne n'avait la moindre idée de comment intégrer ça avec des applications avec plein de menus, etc. Ou là, du coup, c'est bien les trucs épurés, mais ça devient un peu problématique à intégrer sur les grosses applications. Et apparemment, cette fois, ils sont en train de travailler dessus, et ça sortira en même temps, ça sera pour la Creator Update qui sortira cet automne.
D'accord.
Donc on verra bien ce que ça donne.
Et je crois que c'est l'heure de ton coup de gueule.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Oui. Alors, le coup de gueule, c'est y en a marre de ces restaurateurs qui veulent vraiment trop d'argent avant ton événement. Et ça, il faut qu'on en parle. Les gens sont pas trop au courant. Et là, vous dites, mais Kev, mais de quoi tu parles? Mais Kev, mais t'as picolé? Et la réponse est oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons la soirée des 15 ans de Geekzone.
Ouais.
On approche.
Ouais.
Et qu'on avait décidé de la faire au mois de mai.
Ouais.
Et là, si vous regardez votre calendrier, vous dites, on est le 12, va peut-être falloir s'affoler. Oui, mais non. Parce que en fait, on a réfléchi et entre les problématiques d'organisation et les problématiques d'anniversaire, parce qu'en fait, la vraie date de naissance de Geekzone, on la connaît même plus. C'est tellement vieux et puis ça s'est fait en plusieurs tranches, donc c'était un petit peu comme ça nous arrangeait tous les ans.
C'était pas février. J'avais gardé février en tête.
Février, c'était l'ouverture, mais en fait, c'était en mars. On a vraiment commencé à faire des choses autour du site.
D'accord.
Donc c'était un peu compliqué. Et puis ça a commencé à vraiment tourner au niveau des forums qu'en avril, quand on a vraiment réglé les problèmes de bugs, et puis quand joystick feu joystick alors, 1999 bonjour a fermé en 2002.
D'accord.
Donc c'était un peu compliqué.
Bref, tout ça pour dire qu'on va fêter ces 15 ans.
Ouais, on va les fêter, mais au mois de septembre.
Voilà.
Ouais. Alors à la rentrée, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va fêter les 15 ans et demi du site, super, mais on va surtout fêter les 2 ans de la nouvelle formule,
tout à fait,
qui est celle qui nous intéresse. D'ailleurs, petite blague, c'est que j'étais parti sur la date du 15, mais en fait, la date du 15 septembre, c'était la date qu'on avait visée.
Oui.
Et si vous regardez la première news et la news de la nouvelle V5...
Un petit peu plus tard.
Bon, c'était le 23, on y était presque. Attends, pour des mecs qui ont bossé pendant trop longtemps pour ce truc-là, donc on s'en sort pas trop mal à une semaine près, franchement, ça va. Donc, résultat des courses, on a plusieurs choix de date. Est-ce qu'on reste sur, on va faire en fonction de la communauté pour une fois, et en fonction des restos. Donc on va mettre en place un sondage dans quelques temps pour le 15, le 16, donc ça sera un vendredi ou un samedi à chaque fois, ou le 22 ou le 23. Et puis en fonction de ce qu'on aura en opportunité de resto cette fois, enfin pas de resto mais de salle pardon, on va faire un choix avisé. Et j'ai mis une personnalité de confiance, une personne fiable pour gérer cet événement cette fois, et c'est-à-dire pas nous. Donc voilà, là je pense qu'on tient un truc, et une personne en plus qui sait faire un truc, et attention, je sais, toi qui écoutes avec des écouteurs dans le bus, cache ta bouche car tu vas rire, mais on aura peut-être des t-shirts.
Lol.
Voir, attention, peut-être des hoodies.
Peut-être des mugs.
Non,
soyons
non,
fous.
Non, pas des mugs. Des mugs de café pour armer. Non, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc on se donne un peu d'air pour faire ça. Ça a plus de sens pour nous puisque l'anniversaire de base ne ressemblait plus à rien. Et cette nouvelle version est un petit peu le projet qui nous tient à cœur. Donc on s'est dit que c'était plus logique. Et en plus, j'ai cru comprendre que, bizarrement, des gens avaient vieilli et s'étaient reproduits. Et que le mois de mai n'arrangeait finalement pas grand monde dans la communauté des dinosaures. Donc nous allons faire ça en septembre. Alors normalement, la rentrée sera largement passée. Et vous aurez eu le temps de reprendre vos marques. Donc ça sera l'occasion de se voir et d'oublier que l'hiver arrive déjà.
Voilà, on reparlera tout ça donc dans les forums sur Geekzone. On vous rappelle que le nouveau site dont tu parlais, qu'on a lancé il y a 2 ans, bientôt 2 ans, si vous voulez, vous pouvez le soutenir financièrement via Patreon ou bien via PayPal, mais on préfère Patreon. Hein.
Les Patreon, c'est plus pratique, surtout pour nous. Projet futur. C'est parce qu'en fait, on peut l'interfacer alors que PayPal, on peut rien faire. Maintenant, je comprends que les gens préfèrent donner sur PayPal. D'ailleurs, je remercie ceux qui nous font des grosses donations. Vous savez qui vous êtes. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le principe de l'abonnement, ce que je peux complètement comprendre, et qui donc vont donner directement une somme à l'année. Et voilà. Donc, pour nous, à terme, sur les choses qu'on veut faire pour en donner en échange quelque chose, entre guillemets, aux gens qui nous soutiennent, c'est beaucoup plus facile de le faire avec Patreon. Donc voilà, pour l'instant, comme c'est pas en place, c'est pas grave, on n'insiste pas, etc. Et quand ça arrivera, on vous préviendra bien en amont, n'ayez pas peur.
Voilà, et puis bientôt, vous pourrez nous soutenir aussi en achetant des t-shirts. Voilà, insérer ici les rires de circonstance.
Non, mais c'est, on va les faire. Confiance. T'auras un sample.
Je vais trouver un truc. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 9h, comme chaque semaine, dorénavant, pour un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici là, bon week-end, CAF.
Allez, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks. Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskil, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?